bien fait à ce débat qui a été organisé, bien sûr, en corrélation avec l'exposition qui vient de s'ouvrir dans le musée que vous présidez, Benjamin Stora. C'est une exposition qui s'appelle Frontières et qui propose un parcours à travers l'histoire et le présent, aussi l'actualité de la question des frontières sur la planète. Actualité qui est évidemment aussi au cœur d'un livre assez récent de Régis Debray.
On a le plaisir, l'honneur de recevoir ce soir à la Cité de l'Immigration, qui s'appelle Éloge des frontières, un livre qui a eu d'ailleurs des destinées tout à fait inattendues, puisqu'il a fait l'objet aussi d'un certain nombre de commentaires politiques, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Cet essai, donc, il a été récemment réédité en édition folio. Vous pouvez donc vous le procurer pour un prix assez modique, et il vaut évidemment le détour. Je l'ai relu, bien sûr, Benjamin, pour préparer le débat de ce soir, débat qui trouve, en raison d'événements tragiques et de la commémoration de l'hommage national réalisé par le président François Hollande ce matin à l'endroit des victimes des attentats du 13 novembre, une résonance particulière. Mais enfin, c'est vrai que la réflexion que nous proposait il y a maintenant quelques années Régis Debray dans Éloge des frontières reste éminemment stimulante. Il y défend bien sûr la frontière contre ce qu'il appelle la mode du transfrontiérisme, et surtout Régis, vous y démontrer de manière assez magistrale, on va évidemment en parler bien sûr avec Benjamin Stora, que la frontière dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde qui est tellement secoué par les flux de la mondialisation néolibérale, reste, je reprends votre formule, un vaccin contre les murs. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Je veux dire que là où il n'y a pas démarcation, il y a ségrégation. Et je pense que la frontière, c'est le remède contre le mur. Propre d'une frontière, quand c'est une frontière honnête, parce qu'il y a des frontières malhonnêtes. Mais l'éthique de la frontière stipule qu'elle soit dans les deux sens, visible, et qu'elle soit l'objet d'un accord. C'est un vis-à-vis entre deux personnes. La frontière est un égalisateur de puissance. Lorsqu'on n'est plus dans cette vision-là, on dresse des murs, c'est-à-dire que c'est la loi du plus fort. Là où il n'y a pas de frontières, le grand banquier, l'impérial, le théocratique peut s'en donner à cœur joie puisqu'il est partout chez lui. Enfin, il aspire à être partout chez lui. Donc il me semble que le sans-frontiérisme, au fond, c'est toujours pour moi la loi du plus fort, malheureusement. Mais je voudrais même faire un petit point. On est d'emblée là dans le géopolitique. Mais moi j'ai commencé à, non pas m'intéresser, mais à être inquiété, attiré, fasciné par la frontière en 1963. J'en ai fait mon premier livre, La frontière.
C'était bien avant la Bolivie. Hein.
C'était avant la Bolivie, parce que j'avais fait de l'autostop pour aller de New York à Miami avant de partir pour Cuba. C'était donc en 61. J'ai eu une expérience terrible. J'ai été pris en autostop par des malfrats qui voulaient absolument passer d'un état à un autre, arriver en Géorgie le plus vite possible, parce qu'ils avaient sans doute tabassé des Noirs et ils trouvaient qu'il y avait des lois plus différentes. Donc cette idée que on pouvait changer de monde en changeant de lieu et que un espace pouvait comme ça être tour à tour salvateur ou fatal, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup, comment dirais-je, interpellé, comme on dit. Donc je ne me suis pas intéressé à la frontière du point de vue politique, si vous voulez. Puis ensuite, en réfléchissant sur la peau, ce que nous avons de plus profond, comme disait Valérie, en fréquentant François Dagonet, le philosophe du vivant, le médecin, enfin, j'ai compris que là où il y a du vivant, il y a une peau.
D'ailleurs, on peut le dire, hein, Éloge de la frontière, qui est un livre aux résonances, bien sûr, politiques, mais on ne va pas le limiter
non,
à ça. C'est d'abord un livre d'histoire, d'anthropologie, peut-être même de médiologie, qui réfléchit sur le lien qui a toujours existé, allez, on va dire en gros depuis l'Empire romain, mais vous allez préciser les choses, entre la frontière et l'existence de la civilisation, entre la clôture et la culture. Là où il y a de la culture, ouais, il y a de la clôture. Et donc si on est dans un monde qui efface progressivement toutes les clôtures, on risque de tomber hors civilisation. Je vous résume à grands traits, mais je ne crois pas vous trahir.
Non, effectivement, mais disons, là, oui, là où il y a une culture, il y a une finitude, il y a une limite, il y a une clôture, c'est-à-dire là où peut se lever un paysage, une langue, des habitudes, une tradition. Mais vous me mettez dans un, comment dirais-je, une posture très défavorable, parce que celui qui défend la frontière est un type suspect.
Un peu moins depuis quelques jours.
Oui, peut-être parce qu'on revient à la réalité et aux fondamentaux. C'est le cas des situations de crise, tout d'un coup, qui pulvérisent les illusions, pulvérisent le wishful thinking, pulvérisent le « il n'y a qu'à où il faudrait », et tout d'un coup, on revoit ressurgir, les lois fondamentales du vivre ensemble, si vous voulez. Et l'une de celles-là, c'est que là où il n'y a pas une limite, il y a de la barbarie. Alors vous remarquez que les peuples nomades sont rarement démocratiques, parce que là où il y a une démocratie, il faut bien qu'il y ait une enceinte, jusqu'où on va faire payer les impôts, jusqu'où la police peut-elle arrêter quelqu'un. Jusqu'où un juge peut-il prononcer une sentence, il faut bien qu'il y ait à un moment donné une démarcation entre un nous et un eux. Voilà. Mais pour tout vous dire, et j'arrêterai là mes confessions personnelles, moi j'ai découvert l'aspect politique de la frontière en Palestine. Et ça m'a bouleversé, je dois avouer. Dans les territoires occupés, où je suis allé plusieurs fois, j'ai rencontré des gens qui n'aspiraient qu'à une chose, c'est avoir une frontière. C'est-à-dire avoir un endroit où ils peuvent se sentir chez eux, en sécurité, où il n'y aura pas une escouade, un commando de militaires qui viendra dans l'hôpital, dans l'école, prendre quelqu'un et le mettre en prison. Et c'est là où je me suis aperçu que Uri Avneri, l'historien israélien, avait raison. La paix, c'est la frontière. C'est-à-dire, c'est la reconnaissance de l'autre en tant qu'autre. Chez lui, je ne suis pas chez moi. Chez lui, il n'est pas. Il n'est pas chez moi quand il est chez moi, mais je ne suis pas. Je ne peux pas lui imposer ma loi.
Il n'y a pas plus conflit plus insoluble, conflit politique plus insoluble que ceux dans les, qu'on n'arrive pas à interrompre par le tracé d'une frontière. C'est le cas de celui-là, c'est le cas d'autres, bien sûr, aussi. On ne va pas tous les évoquer.
Non, mais celui-là, excusez-moi d'y revenir, parce que c'est ça ce qui m'a, au fond, beaucoup remué. C'est que voilà un pays, Israël, qui exige des frontières sûres et reconnues, mais dont je découvre peu à peu qu'il ne les a jamais définies pour lui-même. Et ça, ça m'a un peu gêné, quoi. Et je crois qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui ont compris ça et qui voudraient qu'il y ait enfin une ligne frontière reconnue de part et d'autre. Mais comme elle n'existe pas, on a fait un mur. Donc c'est ça, si vous voulez, ce qui est un peu actualisé et renversé la conception que j'avais de la frontière, qui est toujours synonyme d'une barrière, d'une répression, d'un empêchement, et tout d'un coup j'ai découvert la positivité.
La positivité, je vais vous citer, parce que c'est un peu aussi l'entrée dans notre discussion, qui progressivement, bien sûr, va s'élargir à des questions politiques, au sens large, politologiques. Vous écrivez dans votre livre, donc c'était avant le nouveau contexte idéologique, qui est le nôtre, avec notamment, bien sûr, la dimension nouvelle que prend le pouvoir actuel, avec le retour au drapeau, si présent aujourd'hui. Vous écriviez donc en 2010, « La frontière rend égale tant soit peu des puissances inégales. Les riches vont où ils veulent, à tire d'aile. Les pauvres vont où ils peuvent, en ramant. Ceux qui ont la maîtrise des stocks, donc stocks de têtes nucléaires, d'or et de devises, de savoir et de brevets, peuvent jouer avec les flux en devenant encore plus riches. Ceux qui n'ont rien en stock sont les jouets des flux. » Autrement dit, la frontière, c'est une vraie conquête républicaine et démocratique de la modernité, c'est ça ?
Elle coïncide certainement avec l'avènement de l'État-nation démocratique. Mais attendez, quand on dit frontière, on parle, il ne faut pas tout de suite penser à une ligne sur une carte. Il y a toutes sortes de frontières. Hein. Il peut y avoir des...
Ce que rappelle l'exposition, d'ailleurs.
Hein. Absolument. J'ai bien fait de ne pas visiter l'expo plus tôt, parce que j'aurais été beaucoup plus soigneux, précautionneux en écrivant mon petit livre, ou plutôt ma petite conférence, car ce livre auquel vous faites allusion n'est qu'une conférence faite au Japon. C'était d'autant plus paradoxal que le Japon, comme toutes les îles ou les archipels, ne se pose pas trop le problème de la frontière. Il est là naturellement donné. C'est ce qui poussait d'ailleurs Édouard Glissant à pas trop se poser le problème de la frontière, puisque vivant dans un archipel, il n'y a pas l'angoisse de l'invasion, de l'empiètement, de la défense, etc. Au Japon, pas plus que aux Antilles ou ailleurs, peut-être aussi en Indonésie. Donc voilà, pour en revenir à la frontière, je considère que c'est un mal nécessaire ou un bien dangereux, si vous voulez. Il y a une ambivalence profonde de la frontière. D'ailleurs, comme de toutes les choses essentielles, ambivalence du sacré, ambivalence de la langue, la pire et la meilleure chose du monde. Il y a une ambivalence profonde et je suis conscient de cette ambivalence. Il se trouve que simplement, quand j'ai fait cette conférence, j'ai voulu tordre le bâton dans l'autre sens, si vous voulez, pour le remettre droit, comme disait mon maître Lénine. Et nous vivions à une époque où le sans-frontiérisme régnait en maître, où cet ethnocentrisme qui s'ignore et qu'on appelle le sans-frontiérisme, c'est-à-dire je veux être partout chez moi et mes règles doivent être les règles du monde entier. À ce moment-là, c'était tellement impérieux et naturel que j'ai voulu un peu aller dans l'autre sens, pour ainsi dire. Mais en constatant au fond, en insistant sur le fait que les bonnes frontières font les bons voisinages et que l'absence de frontières fait des guerres de 100 ans.
Alors, voilà. Régis, avant de céder la parole à Benjamin Stora pour qu'il donne aussi son sentiment sur le thème posé comme une sorte de question de cours, hein, penser les frontières, on fait aussi un peu de philosophie parfois à la Cité de l'immigration, visiblement, je vais vous lire une citation d'un entretien récent qu'a donné Benjamin Stora, où il dit « J'appartiens à une génération qui est venue à la politique après 68 et qui en tenait pour le caractère révolu de la question nationale. Seul comptait à nos yeux les solidarités internationales. » Et Benjamin Stora poursuit « Nos maîtres à penser eux-mêmes, Bourdieu, Foucault ou Derrida, se projetaient et nous projetaient dans un cadre extrêmement large. Est-ce qu'on est en train de réatterrir et de rétrécir notre champ de vision aujourd'hui ?» Non, mais Régis, répondez quand même. Est-ce qu'actuellement, on est en train de réatterrir et de rétrécir notre champ de vision, de nous resouverainiser, de nous renationaliser, en quelque sorte, à la faveur aussi d'événements tragiques comme ceux du 13 novembre ?
Oui, il ne faut pas que ce soit pour le pire. Il faut que ce soit pour le meilleur. Ça peut être pour le pire, bien sûr. Et en ce sens, je crois que la nation cadastrale, patrimoniale, fermée, dressée sur ses ergots, évidemment, c'est fini et c'est très bien que ce soit fini. Mais si la nation doit être quelque chose de civique et non d'ethnique, eh bien, il lui faut des frontières. Parce qu'au fond, c'est pour qu'il y ait la même loi pour tous et qu'il n'y ait pas de différence entre les ethnies, les origines, les sexes, etc., il faut qu'il y ait la communauté du sol, il faut qu'il y ait une attache sur un territoire à l'intérieur duquel il y a une égalité possible. Voilà. Donc oui, je crois que nous revenons aux fondamentaux pour le moment. C'est vrai qu'il y a un changement d'atmosphère aujourd'hui. Je me souviens, mon ami Chevènement, quand il avait voulu rétablir à l'école la Marseillaise en apprenant simplement les paroles, il s'est fait injurier par tout le monde. Ne parlons pas de ceux qui brandissaient le drapeau français, qui ne pouvaient être que des nationalistes. Au fond, vous savez, ça devient très difficile de parler des choses, parce que vous parlez de la nation, on vous parle de nationalisme. Vous parlez des Lumières, on vous parle des Illuminés. Vous parlez du peuple, on vous parle des populistes. Vous parlez d'identité, on vous parle des identitaires. Donc, au fond, on ne peut plus dire grand-chose parce que tout de suite, on va au monstrueux ou au pathologique. Mais je pense qu'effectivement, nous sommes en train aujourd'hui de retrouver nos marques, et ce sont des marques républicaines, et ce ne sont pas, sauf à confondre de la croix et des roulades, le drapeau tricolore est un drapeau révolutionnaire.
Voilà. Il peut y avoir un bon usage des frontières, un usage démocratique des frontières.
C'est pas simple.
C'est au fond le sens de votre
c'est
petit essai.
Hein. Il faut d'autant plus y avoir un bon usage que le mauvais usage est très facile. Et puisqu'on parlait de la peau, il faut se rappeler que la peau, c'est une interface, elle a des pores, ça permet de respirer. Autrement dit, une frontière hermétiquement close n'est plus une frontière.
Avis voilà. À ceux qui peuvent en rêver.
Hein. Oui, bien sûr, bien sûr.
Alors je vous
j'aimerais voilà. Entendre.
D'autant que je le
cite. Maintenant, je trouve que j'ai assez parlé. J'aimerais entendre Benjamin.
Je le citais dans un entretien, mais il va le préciser, bien sûr, où Benjamin, au fond, revenait sur son propre itinéraire pour comprendre quels étaient les enjeux présents, et notamment relativement à cette question de la frontière et de la souveraineté.
Alors d'abord sur le fait que la frontière a mauvaise presse aujourd'hui, c'est vrai parce que la frontière, ces dernières années notamment, est devenue synonyme aussi de cimetière. Le cimetière marin, la frontière méditerranéenne, qui est considérée comme une frontière entre guillemets naturelle, a été le lieu quand même d'engloutissement de plusieurs centaines de personnes, et cette frontière, il fallait absolument la franchir. Et donc, la question de la frontière a pris une connotation fortement péjorative, parce qu'elle est vue effectivement comme un obstacle à des mouvements migratoires, des mouvements de liberté, des désirs d'émancipation, etc. C'est-à-dire que c'est quand même ce sentiment-là, bien sûr, qui progressivement s'est installé hein, dans la population. Mais puis la frontière, pour une génération comme la mienne, évidemment, qui était ce que je disais dans cet entretien récemment, c'est une génération qui était entrée en politique par le biais de l'internationalisme politique, et donc qui manifestait dans les lendemains de 68 en disant ce mot d'ordre très célèbre, les frontières, on s'en fout. Hein, c'était un des mots d'ordre de 68 quand même. Hein, c'était un grand mot d'ordre qui permettait de saisir, disons, l'aspiration de la liberté par le voyage, par la libre circulation, par le fait de passer d'un monde à l'autre, d'un univers à l'autre. Et il y avait ce désir éperdu de liberté dans une grande partie de la jeunesse européenne, pas simplement européenne d'ailleurs, de toutes les jeunesses du monde à cette époque-là. Ce désir de vouloir transgresser, de circuler, de ne pas rester enfermé dans un seul monde, dans un seul univers, c'était quand même quelque chose de très fort, de très puissant. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, dans les années 70, pour aller vite, qui est ma génération, la question nationale apparaissait comme une question dépassée. C'était une question réglée. Ça apparaissait comme une question archaïque derrière nous. Hein, Mais ceci dit, pour revenir toujours sur cette question d'itinéraire, au moment précisément où il semblait que toutes ces questions étaient réglées, moi j'ai travaillé sur le nationalisme. J'ai travaillé sur le nationalisme algérien en établissant la biographie d'un leader algérien qui s'appelait Messali Hadj, et puis ensuite de Ferhat Abbas. Donc il y avait quelque chose chez moi quand même qui n'était pas net. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois la volonté du dépassement de la question nationale par l'engagement politique de l'époque, mais en même temps, à rebours de ce qui se fabriquait à cette époque-là, c'est-à-dire réfléchir sur le socialisme, sur le collectif, etc., il y avait chez moi quand même une recherche très forte sur qui étaient, dans le fond, ces gens qui avaient brandi un emblème national contre un autre emblème national qui était celui du drapeau français. Et cette question-là, quand même, moi, elle m'intéressait. C'est-à-dire qu'en travaillant notamment sur les parcours de ces militants-là, je me suis aperçu que, dans le fond, ils avaient cherché aux sources, quelque part, du républicanisme français, les leçons, les moyens et les outils de forger eux-mêmes leur propre nationalisme. Et ça, cette question-là, quand même, je parle de la fin des années 70, hein, de mon travail sur Messali. Cette question-là, dans le fond, et surtout sur Ferhat Abbas, et cette question-là, dans le fond, c'est le retournement des valeurs d'une nation contre ses principes bafoués ou injustement appliqués. Ça m'a beaucoup intéressé. C'est-à-dire cette espèce de dichotomie, de différence et d'opposition entre la proclamation d'idéaux nationaux derrière un drapeau à caractère universaliste, le drapeau de la Révolution française, retourné par des peuples, des sociétés, des nations qui, au nom d'un particularisme, voulaient forger leur propre drapeau, etc. Donc, ça, c'est une question, à mon sens, qui n'est pas simple à régler. C'est-à-dire, grosso modo, et c'est un peu la question que je pose à Régis, parce qu'il y a Régis Debray, c'est cette espèce de frontière étroite et difficile et poreuse, c'est le cas de le dire, entre nation et nationalisme. C'est quand même très, très compliqué. C'est quand même pas simple. Parce que les notions de frontières, je suis entièrement d'accord avec lui, lorsque j'ai relu cet ouvrage, évidemment, entièrement d'accord sur le fait qu'on ne peut se définir que par rapport à l'autre. Que la frontière est évidemment essentielle, et il le dit très bien dans son livre, notamment sur la question de la séparation. La séparation entre privé et public, la séparation entre le religieux et la société civile, c'est des questions aujourd'hui tout à fait décisives. Et on ne peut pas vivre sans la démarcation, sans la séparation. Ça, c'est pas possible, parce que ça constitue, ça construit, ça fabrique, bien sûr, ce qu'on a appelé sous le terme de la citoyenneté, du vivre ensemble, etc. Là-dessus, je crois qu'il a eu parfaitement raison.
Mais ce que vous demandez, c'est à partir de quel moment l'invocation de la frontière, l'invocation souverainiste, au fond, devient une sorte de tyrannie de l'enracinement. Voilà. À partir de quel moment on est dans le nationalisme?
Alors là, le problème, c'est un peu le questionnement que moi j'ai. Hein. Je suis pas le seul, évidemment, dans ce type de questionnement. C'est-à-dire, alors évidemment, aujourd'hui, c'est compliqué après les attentats, mais je persiste à croire que le problème, disons, de l'affirmation de frontières de manière absolue et j'allais presque dire définitive en rapport avec une origine unique, républicaine ou autre, peut prendre différents sens. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs aspects aujourd'hui. Il peut y avoir un nationalisme de type universaliste, c'est-à-dire d'une frontière sans frontières, c'est-à-dire de principes républicains qui s'enracinent mais en même temps qui portent au monde un message. Mais il y a aussi en France aujourd'hui un nationalisme de rétractation.
Alors justement, avant que Régis vous réponde là-dessus, qu'il précise sa pensée et peut-être qu'il redéfinisse un peu le paysage idéologique après cette bataille, est-ce que vous avez le sentiment qu'au fond, tourner la page du transfrontiérisme ou du sans-frontiérisme, tourner la page, disons, de la génération morale, des droits de l'homme, de SOS racisme, c'est ouvrir la porte à des expériences idéologiques et politiques qui peuvent être celles carrément du nationalisme sans phrase, ou bien c'est plus compliqué?
C'est que c'est compliqué, parce que moi, j'ai jamais cru à la génération morale, pas plus que la génération Bataclan, je sais pas quoi, c'est des inventions sur le moment, bon, passons là-dessus. Mais non, ce que je crois, moi, dans la difficulté sur le temps long, parce que c'est le métier d'historien qui décide de réfléchir au temps long, c'est comment aujourd'hui penser un nationalisme en France dans une situation de perte de l'empire colonial qu'était la Grande France. C'est-à-dire, ça, c'est une, à mon sens, c'est la question que moi je me pose. Les frontières françaises telles qu'elles existaient il y a seulement 60 ans, c'est-à-dire il n'y a pas tellement longtemps, ont disparu. Et on est dans un autre type de frontières. Cette question-là, elle n'est pas vraiment abordée dans l'ouvrage. C'est un peu la question que je voulais poser, parce qu'il faut qu'on ait un débat, parce que sinon, on peut pas...
Il faut que vous marquiez du dissensus, comme disait Derrida.
Absolument, voilà. Et là, la question, disons, du retrécissement, du rétractation des frontières en France, est-ce que ça provoque pas précisément ce nationalisme politique de la rétractation? C'est-à-dire sur une seule origine, sur une seule langue, sur une seule façon d'être, etc. Et cette question-là, elle est loin d'être réglée dans la société française d'aujourd'hui. En d'autres termes, la réaffirmation, disons, de principes républicains que nous connaissons tous, peut pas suffire dans une situation, bien sûr, de mondialisation culturelle, on y reviendra, mais peut pas suffire aussi dans une situation où la France elle-même a vu ses frontières profondément modifiées, sa figure profondément modifiée, sa géographie profondément modifiée, sans que les Français eux-mêmes en aient conscience. Parce que la fin de l'Empire a été quelque part sublimée ou effacée par la magie du verbe du général de Gaulle, qui a pu faire croire pendant tout un temps aux Français qu'il restait une grande puissance dans le monde. Je ne vais pas ici énumérer tous les grands voyages qu'il a pu accomplir dans le monde de 62 jusqu'en 70. Mais en fait, la France n'était plus la France. Et les Français ne pouvaient pas imaginer à quel point leur pays avait changé complètement et que cette grande France avait disparu. Mais eux avaient conservé peut-être cette mentalité de la grande France. Donc la question, disons, de la modification des frontières de la France est-ce qu'elle n'induit pas une modification du nationalisme français qui est passé d'un nationalisme de type universaliste, même sous le masque colonial, à un nationalisme de type, disons, plus, comment dirais-je, de rétractation qui est celui d'une identité française repliée sur une seule religion, sur une seule origine. Ça, c'est une question qui me paraît importante. On a oublié la disparition des frontières de la France aux confins de l'Empire. On l'a complètement oublié. Or, c'est une sacrée question. Je m'excuse parce que moi, je suis un spécialiste d'histoire coloniale, donc je suis obligé de traiter de ce que je connais le mieux.
Merci beaucoup. Régis Dauvray.
Moi, je ne vais pas te contredire. Je ne peux qu'enchaîner sur ce que tu as dit. D'abord, tu étais au départ trotskiste, je crois, donc internationaliste.
Vous dites ça avec une moue suspicieuse, là.
Oui, parce que
vous étiez guévariste.
Oui, mais le guévarisme est un nationalisme. Je vous choque en disant ça. Je m'explique. J'ai toujours eu une grande admiration intellectuelle pour Trotsky. Et je me suis dit, cet homme a manqué la question essentielle, qui est la question nationale. Et les trotskistes n'iront jamais très loin, parce que tant qu'ils n'ont pas compris que c'est le levier, c'est le moteur, c'est le nerf de la guerre révolutionnaire, ils iront dans le mur, c'est-à-dire qu'ils resteront au quartier latin. Moi, j'ai découvert, mais exactement comme Benjamin, peut-être un peu plus tôt, en allant en Amérique latine, que tous les révolutionnaires que je connaissais étaient des patriotes. Mais tous, exactement comme les Algériens dont tu parles. Même Marco, c'est pas pour rien que ce commandant Marco, il est sapatiste. Sapatin. Le Tchid pensait qu'à San Martín, Fidel pense à Marti. Et au fond, quand on regarde les révolutions socialistes contemporaines, on s'aperçoit que le noyau, celui qui à la fois pérenne et subsistant, c'est le culte de la nation, au fond. Hein? Alors, il y a différents cultes. Mais je pense que c'est malheureusement ce que le marxisme a un peu manqué et qui est, je dirais, cette chose qui est malheureusement apparue en 1914. Quand vous lisez les textes des socialistes, que ce soit de Jaurès ou Liebknecht, ils vous annoncent que les prolétariats ne feront pas la guerre. Bon, entre eux, il y a quelque chose de plus, je dirais, de plus profond que l'appartenance de classe, c'est l'appartenance nationale. Ça se voit tout le temps. Bon. C'est malheureux, je le regrette, mais je constate que c'est un fait. Comme c'est un fait qu'on a construit depuis qu'on parle de sans frontières à Paris, avec des gens très sympathiques. On a construit 30 000 kilomètres de frontières sur la planète, n'est-ce pas ? Depuis 15 ans. Donc, ce qu'on nie en pensée, on se refuse à le voir en réalité. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, oui, tu parles de passer d'un monde à l'autre, mais c'est bien ce que je voudrais, c'est qu'on puisse encore passer d'un monde à l'autre en voyageant dans le monde, en faisant le tour du monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul monde. Or, le propre de l'univers technologique, en gros de l'outillage, des normes, des matériels industriels, c'est qu'ils sont partout les mêmes, c'est-à-dire que c'est une uniformisation technique du monde. Or, cette uniformisation technique du monde produit un vide d'appartenance qui appelle, malheureusement, mais c'est un fait, qui appelle en contrepoint une furie d'appartenance. C'est-à-dire que la mondialisation est une balkanisation. La mondialisation techno-économique produit une balkanisation politico-culturelle. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas 50 États aux Nations Unies en 1945, qu'il y en a aujourd'hui 194. Et ça continue. Donc, ce mouvement de fragmentation qui t'inquiète avec raison, je vois sa source précisément dans la mondialisation. C'est-à-dire que c'est une mondialisation qui est d'un certain côté évidente en termes de commerce, en termes d'outillage, en termes de marchandises, mais elle a son envers, qui est la remontée des archaïsmes et des particularismes comme étant les derniers points qui te permettent de ne pas être exactement comme ton voisin, c'est-à-dire d'avoir ton monde à toi, précisément. Alors, ces mouvements de, je dirais, de contre-mondialisation, il a un danger, effectivement. Ben, on le voit bien politiquement aujourd'hui, hein, c'est la remontée du tribal partout. Et moi, je dis, entre le mondial et le tribal, essayons de sauver quelque chose comme la nation. C'est-à-dire entre le tribal ethnique ou le fondamentalisme religieux qui n'a pas de frontières. Dieu n'a pas de frontières. Une fatwa peut m'être appliquée d'un bout à l'autre du monde. Les intégristes n'aiment pas les frontières. Je dirais, les gens des Lumières ont compris que la frontière, c'est aussi une protection.
Et Régis, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, prenons la société française, mais Benjamin Stora ensuite va nous répondre, mais est-ce qu'il n'y a pas plusieurs manières de se réclamer de ce patriotisme républicain? Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs variantes derrière l'homonymie du patriotisme républicain ou du républicanisme? Est-ce qu'il n'y a pas des orientations idéologiques et politiques très différentes? Et évidemment, parmi elles, certaines qui ont de quoi inquiéter un démocrate sincère.
Bah, évidemment, vous voulez me faire dire une platitude, mais je vais la dire.
C'est parfois le sens des bons débats. Hein.
Oui, non, mais sortons cette vérité première. Le patriotisme, c'est l'amour de son pays dans le respect des autres, et le nationalisme, c'est la haine de l'autre en se pensant supérieur à lui. C'est tout à fait différent. Le patriotisme est universel parce qu'il reconnaît qu'il y a d'autres patries. Voilà. Et qu'elles sont aussi respectables que la nôtre. Voilà. Donc, en un sens, moi, j'ai une conception assez relativiste de la notion de patrie, si vous voulez. Pour moi, la notion de patrie, c'est la reconnaissance d'une finitude. Je ne peux pas parler au nom de l'humanité. Voilà. Plus il y a de gens autour de la table, plus le jeu est intéressant. C'est très dur de réhabiliter l'idée de nation, parce qu'on confond toujours la nation civique et la nation ethnique. Mais qu'il y ait égalité devant la loi est une chose, mais qu'on commence à discriminer entre les gens en fonction de leurs origines, en fonction de leur généalogie, c'est insupportable. Mais précisément, la nation républicaine, ça s'est fait contre cela. Voilà. Et de même que je dis que les effets pervers de la frontière existent, mais ils sont moins graves que les effets pervers de l'absence de frontière, je dirais qu'on peut dire la même chose de l'idée de nation, si vous voulez. Mais évidemment, quand je dis nation, je pense plutôt, je pense à Valmy, je pense à 1848, je pense à Clémenceau. Je ne pense pas à Madame Le Pen, si c'est ça ce que vous voulez dire.
Merci.
Ça va de soi.
Ne me regardez pas avec ce regard suspicieux. Hein.
Non, parce que. Non, je n'ai aucun regard suspicieux, mais c'est vrai que c'est toujours difficile. C'est toujours difficile d'aborder ces questions parce qu'il y a trop de simplisme derrière tout ça. Voilà. Et puis, moi, j'aime bien qu'il y ait des lieux d'asile, si vous voulez. Un sanctuaire, c'est un lieu d'asile. On ne peut pas venir vous chercher dans un sanctuaire. Hein. Et moi, s'il y a une fatwa contre moi qui vient de je ne sais quel pays arabo-musulman, je suis content qu'il y ait des frontières. Et c'est-à-dire que qu'on ne peut pas venir me tuer comme ça chez moi. On peut venir, bien sûr, mais celui qui le fait ne sera pas dans son droit. Pas mal, non?
Merci beaucoup, Benjamin.
D'abord sur Trotsky, évidemment. C'est vrai que Trotsky n'avait pas vu la question nationale parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'avait très bien vu dans une brochure de 1914 qui s'appelait Joseph Staline, évidemment. Le marxisme et la question nationale, le plus grand classique.
Écoute, c'est pas un mauvais livre.
Voilà.
Excuse-moi, c'est pas un mauvais livre.
Mais parce qu'il avait été écrit par Lénine. C'est pour ça que c'était pas un mauvais livre. Donc, parce que je connais mes classiques quand même sur ces questions-là. Donc, il y a effectivement eu, peut-être chez Trotsky, une sous-estimation. De la question nationale.
Il était trop intelligent, Trotsky.
Certainement.
Trop intelligent. Oui, pas assez d'affect.
Pas assez de passion pour la terre et les morts, peut-être, je sais pas.
Non, la terre et les morts. Non, mais.
Je sais pas.
Mais, non, mais ouais, écoute, j'ai, j'aime beaucoup Trotsky. Je fais mon pèlerinage dans la maison de Trotsky au Mexique et j'ai connu ses derniers secrétaires. Donc voilà. Mais j'ai toujours pensé qu'il y avait une faille là et que tu m'avoueras que tu le disais toi-même, tu n'avais pas bien envisagé cette question.
Tout à fait. Non, mais enfin, passons sur ces. Non, parce qu'il y a quand même un aspect quand même qui est intéressant à cette époque-là, c'est le fait que les socialistes allemands de l'Empire austro-hongrois avaient beaucoup réfléchi à la question nationale. Otto Bauer avait quand même écrit des choses absolument remarquables sur ces questions-là, dans la perspective d'un effondrement de l'Empire austro-hongrois et sur la question des minorités et des nationalités, comme on disait à l'époque. Il y a quand même beaucoup de choses qui avaient été écrites par les marxistes.
Les austro-marxistes qui imaginaient une nouvelle,
au fond, donc,
une
le marxisme au sens large n'a pas totalement failli non plus. Parce qu'aujourd'hui, on dit tout le temps, tout est mauvais, la faillite est générale. C'est pas si simple, parce qu'il y avait des gens qui avaient réfléchi à beaucoup de choses à cette époque-là.
Et par parenthèse, ils imaginaient une autre articulation de la nationalité et de la citoyenneté.
Et de la citoyenneté, évidemment, et de l'État, bien entendu. Et ça, c'était très intéressant à observer. C'est une parenthèse que je fais rapidement. Maintenant, pour en revenir à aujourd'hui, c'est vrai que les effets pervers, disons, de la mondialisation... Mais en même temps, comment dire, les crises et les effondrements des États-nations traditionnels constitués, notamment au moment des indépendances politiques, sont des défis redoutables qu'il nous faut affronter, pas simplement en essayant de rester sur le vieux concept ou les vieilles frontières de l'État-nation. En d'autres termes, il y a un effondrement aujourd'hui en Syrie, en Irak, de l'État-nation traditionnel, il y a un effondrement de l'État-nation en Libye, bon, avec... une perspective peu joyeuse du retour à un mode familial et tribal, bon, qui vient, disons, se heurter au modèle de l'État-nation hérité du nationalisme arabe, pour aller vite. Bon, cette crise du nationalisme arabe profonde, qu'on a vue notamment au moment de ce qu'on appelle les révolutions arabes de 2011...
Elle a fait le jeu des fondamentalistes.
Voilà. Et donc nous oblige à un défi énorme. Un défi énorme qui ne peut pas simplement consister à nous dire on va rester dans le cadre... du maintien, du soutien des vieux États tels qu'ils existaient, pour aller vite, bon, Saddam Hussein, Bachar el-Assad, Ben Ali en Tunisie, Moubarak en Égypte, et puis on va essayer comme ça, à travers les États-nations tels qu'ils étaient constitués au lendemain des indépendances politiques, nous contenter de cela. C'est un défi nouveau pour nous. Parce qu'on ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe ailleurs. C'est pas possible. Hein, c'est fondamental. Or, aujourd'hui, les frontières se redéfinissent complètement sous nos yeux à une vitesse prodigieuse. Et on ne peut pas simplement réaffirmer l'ancien. C'est-à-dire en disant, nous restons dans l'ancien. Il faut, disons, une réflexion sur une redéfinition de frontières.
Et c'est trop redoutable. Cette redéfinition, vous pensez, Benjamin, qu'elle est le produit, comme le soutien Régis, de l'accélération des processus de balkanisation entraînés par
pas
la mondialisation.
C'est aussi ce qu'il disait qui est très vrai, qui est très juste, sur des retours aussi à des histoires plus anciennes, des histoires antérieures, qui étaient des histoires même antérieures à l'Empire ottoman, bien sûr, à l'histoire antérieure aux puissances mandataires, en fait, en l'occurrence de la France, en Syrie et au Liban. Donc on a un retour à des choses beaucoup plus anciennes, des histoires beaucoup plus anciennes qui veulent redéfinir les frontières. Et on doit tenir compte de ça. On est obligé de réfléchir à ces questions-là, parce que sinon, on est dans une sorte de paresse intellectuelle, de réaffirmation de l'État-nation tel qu'il existe aujourd'hui, et donc de soutien, quelque part, au régime politique issu de ces États-nations redécoupés. Donc, moi, j'élargis un peu le propos, hein, pour dire que, bien sûr, la France est un vieil État-nation hérité, la Révolution française, la monarchie, enfin bref. Alors, on est effectivement dans des configurations géographiques différentes, mais je disais tout à l'heure, il ne m'a pas été répondu à cette remarque, que les frontières de la France ont été profondément modifiées il y a 60 ans, parce que l'Algérie, c'était la France. C'était pas simplement une colonie, et les frontières de la France, elles allaient jusqu'au Mali. Donc, c'était la France, jusqu'au Mali. C'était il y a 60 ans, c'était pas il y a 3 siècles ou 4 siècles. Donc ça, c'est très, très, très nouveau. Et il va falloir s'habituer à penser en France, et je pense aux Français au sens large, et aux intellectuels français, à se penser comme une nation géographiquement différente, avec des frontières différentes. Il faut peut-être faire cet effort-là aussi. C'est un effort intellectuel, politique, culturel, que de se penser différemment dans le monde, avec des frontières différentes. C'est ça que je dis. Et cet effort, il faut le faire. Parce que sinon, on reste... dans une conception de l'État-nation ancienne, disons, qui est qui ne correspond plus à la réalité.
On va écouter
politique.
Sa réponse et j'aurai une question sur cette redéfinition des frontières françaises après.
Non, mais je suis, encore une fois, et tant pis pour le débat, totalement d'accord. Ma patrie, c'est la langue. Et quand il veut, quand Benjamin dit qu'il faut modifier la conception qu'on se fait de notre pays, c'est évident. Il faut abandonner, évidemment, la territorialité qui risque de déchoir en terroir, d'ailleurs, en une multiplicité de terroirs. Mais il faut repenser en termes de culture, c'est-à-dire de projection d'imaginaire, de projection de langue, de projection de film. Il faut que la France redevienne, j'allais dire, une atmosphère, une puissance émettrice, d'innovation et de tradition aussi. Donc oui, c'est vrai, il faut abandonner la carte saumon sur les murs des écoles et tourner cette page-là, mais non pas pour abandonner ce qu'on est, pour le réaffirmer d'une autre façon, disons pour substituer le soft au hard pour parler francophone. Mais effectivement, moi je me sens très à l'aise avec un Algérien comme Kamel Daoud, avec tel Indochinois, avec tel Québécois. Donc je pense que ce rétrécissement, ça peut être un élargissement, si tu veux, hein, si on sait bien le prendre. Ça peut être tout cet archipel de francophonie qui reste encore à constituer.
Au passage, le fait que la France reste héritage, bien sûr, des confettis de son ex-empire colonial, mais reste présente par les départements et collectivités d'outre-mer dans les 5 continents, ça a un sens à méditer, justement, relativement à cette question des frontières qui nous occupe ce soir.
Ça a un sens que, malheureusement, l'Union européenne nous a fait oublier. Car, parfois, le repli sur l'Europe me fait penser au repli sur l'Auvergne pendant la guerre du maréchal Pétain, c'est-à-dire le donjon central, la forteresse. Moi, je suis frappé que, dans ma jeunesse, quand je lisais Le Monde, je pouvais trouver des reportages en 4 livraisons sur le Venezuela, sur l'Indochine, sur l'Indonésie. Je me souviens, on s'intéressait à ce qui se passait dans l'océan Indien, à ce qui se passait dans l'Amérique latine, dans les Antilles, dans le Pacifique Sud. Aujourd'hui, il y a cette sorte de rétraction dont tu parles, qui me semble que le face-à-face avec l'Allemagne, en quelque sorte, nous a fait oublier non seulement le Sud, mais le reste du monde. Donc je trouve que, contrairement à ce qu'on dit, il se peut que l'Europe soit un facteur de rétraction et non pas un facteur d'augmentation. Alors, il y a une deuxième chose que je voudrais ajouter, mais encore une fois pour aller dans son sens, c'est que ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui, c'est que dans les périodes de crise, les couches, les structures les plus récentes s'avèrent les plus fragiles. Et ça vaut aussi bien pour les individus que pour les collectifs. C'est-à-dire qu'on sait bien que quand on perd la mémoire, on commence par perdre la mémoire de ce qu'on a fait hier, mais on retrouve celle de ce qu'on a fait 50 ans avant. Il en va un peu de la même chose pour les nations, c'est-à-dire que on voit aujourd'hui que les constructions étatiques, les traités diplomatiques, les frontières type Sykes-Picot qui viennent par le haut, et je dirais même les structures partidaires, les structures citoyennes, quand il y a une crise nationale générale, quand il y a une guerre, quand il y a une terrible crise économique, quand il y a une guerre civile, tout d'un coup, ces couches toutes modernes s'effritent et réapparaissent les choses les plus archaïques, qui sont les plus solides. Donc, retour du tribal, effectivement. Et alors, je suis d'accord avec toi, on ne peut plus s'en tenir à Sykes-Picot, qui est mort. Hein, qui est mort. Mais il ne faudrait pas... Hein? Oui, Sykes-Picot, c'est le... c'est un accord qui a eu lieu entre les Français et les Anglais à l'issue de la Première Guerre mondiale et qui répartissait les zones d'influence, qui construisait le Liban d'un côté, la Syrie de l'autre, l'Irak, il y avait une sorte de répartition et de tracé de frontières totalement impérialiste, hein, puisqu'on ne consultait pas les populations. Mais alors, ce qui serait terrible, c'est d'en revenir à ces constructions artificielles et qui sont, je dirais, des impositions hégémoniques par les puissances centrales, de le remplacer par des guerres tribales sans fin. Autrement dit, on n'échappera pas un jour à une grande conférence où soient mis sur le même plan les grands et les petits, si j'ose dire, les grandes puissances et les petites puissances. Parce qu'il faudrait vraiment, ce qui est fondamental, je dis que la frontière, c'est un vis-à-vis. C'est-à-dire, ça me permet de t'envisager.
D'envisager l'altérité. Hein,
de voir ton visage. Ton visage, c'est pas le mien. Et si on trace une frontière d'un commun accord, on se reconnaît notre légitimité à être différent l'un de l'autre. Si on en revient à des frontières, je dirais, purement pulsionnelles ou passionnelles, imposées par un rapport de force, on est dans une guerre de 100 ans encore. On y est déjà, d'ailleurs. Au Proche-Orient, on est plus loin de la guerre de 100 ans. Mais il faudrait essayer d'éviter ça, et ça exige un peu d'humilité de la part des ex-puissances impériales. Je parle pour nous, ou des puissances impériales d'aujourd'hui, au premier chef, les États-Unis d'Amérique.
Merci.
Benjamin Stora. C'est pour poursuivre cette réflexion, c'est-à-dire qu'il y avait un dogme dans la construction de l'Organisation de l'Unité Africaine, l'OUA, dans les années 60. Ce dogme, c'était l'intangibilité des frontières. C'est-à-dire qu'il fallait absolument maintenir coûte que coûte toutes les frontières héritées de la présence coloniale européenne, qu'elles soient françaises ou anglaises. C'est ce dogme-là qui est en train de craquer, précisément. Le problème de cette intangibilité des frontières, il craque avec le conflit du Sahara occidental, il craque avec ce qui se passe. Je ne vais pas faire l'inventaire de tous les pays. Et les intégristes s'engouffrent dans ces craquements. C'est-à-dire qu'eux proposent effectivement cette sorte de Oumma Islamia, de patrie sans frontières, qui vient débarrasser, dépasser le nationalisme existant, hérité, disons, de la période coloniale. Ils essayent de tirer leur force précisément de cela, hein, c'est-à-dire d'en finir avec cela. Donc comment trouver le bon équilibre entre, disons, des frontières découpées de manière artificielle et arbitraire et qui correspondent à des frontières, donc je vois que je ne suis pas du tout contre les frontières, hein, au contraire, mais comment essayer de faire en sorte de retrouver des frontières qui renvoient à des histoires plus lointaines et correspondant davantage au vécu des peuples. Cette question-là qui se pose en Afrique, mais elle se pose aussi quelque part, qu'on le veuille ou non, en Europe. Parce que c'est un défi aussi qui est posé à l'Europe avec ce qui se passe en ce moment en Catalogne, avec ce qui se passe en Écosse, etc. etc. C'est-à-dire qu'il y a aussi en Europe des défis que je pourrais qualifier de néo-nationalisme qui surgissent aujourd'hui, appuyés sur des identités dites entre guillemets régionales et qui visent à redéfinir des nations différentes et donc des frontières différentes. Et donc, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire de multiplier les frontières, c'est-à-dire d'accroître le nombre de frontières, peut-être pour se retrouver, savoir qui on est, se fabriquer, disons, des identités anciennes ou retrouver des identités perdues, bon, ça c'est évident, mais c'est aussi, bien sûr, multiplier peut-être les obstacles, c'est-à-dire les vis-à-vis, parce que, on le sait, les disputes aux frontières créent des batailles aux frontières, donc qui peuvent être très sanglantes, évidemment. Donc, c'est un défi aussi à l'Europe, pour l'Europe, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter simplement aussi aujourd'hui de réaffirmer cette sorte de continuité des États-nations européens comme étant existant de manière immuable. Parce que l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, peut-être, on l'a bien vu avec l'histoire de la réunification en Allemagne, hein, ces questions-là, ce ne sont pas des petites questions. Ce sont les questions, à mon avis, de nouvelles frontières qui sont devant nous. Ce sont des questions qui sont devant nous aujourd'hui en Europe et qui, effectivement, doivent redéfinir notre rapport, effectivement, avec les nouvelles puissances impériales, dont la principale est, effectivement, les États-Unis. Donc c'est dans ce cadre-là que moi, je réfléchis à la question des frontières et des nouvelles frontières. Parce que cette question des nouvelles frontières, ce n'est pas simplement le logo d'un club de voyage, les nouvelles frontières, c'est un défi absolument redoutable qui peuvent signifier la fin de l'Europe politique telle qu'elle est construite aujourd'hui. Et c'est pas simplement les histoires de migrants.
C'est pas sûr que cette fin désespère autant Régis Debray que vous, bien sûr. Hein. Donc on va rester sur une note de divergent accord. Quelques mots et on va ensuite dialoguer avec le public, Régis.
Ben, encore une fois, on ne remplace que ce qu'on détruit, c'est-à-dire qu'on remplace une frontière par une autre. Toujours. Quand on en détruit, on en retrouve une autre. Et souvent, celle qui vient après est pire que celle qui était là avant. Quand ça devient une frontière religieuse ou une frontière ethnique, ou une frontière tribale, avant d'être une frontière civique, politique. Et souvent, on veut faire un pas en avant et on se retrouve deux pas en arrière. Je retrouve une citation de Lénine, je m'excuse. Mais souvent, l'Europe me donne cette impression d'avoir fantasmé ou voulu anticiper une sorte de 21e siècle merveilleusement unitaire, fédéral, lisse, sympa, si tous les gars du monde, et en fait on se retrouve bientôt avec l'Europe du 15e siècle, c'est-à-dire l'Europe des provinces, l'Europe des séparatismes, l'Europe des féodalités qui se replient sur elle-même. Et souvent on croit dépasser l'État-nation, on a tous envie de dépasser l'État-nation, bien sûr, mais quand l'État descend, qu'est-ce qui monte? Les mafias et les clergés. Plus de règles. Donc souvent, on critique l'État-nation pour être un peu ringard, mais on produit du beaucoup plus ringard encore.
Et toutes les féodalités, capitalistes. Hein.
Évidemment, quand je dis les mafias, je dis les banquiers.
J'aurais dû y penser, bien sûr.
Non, mais ça va de soi, c'est-à-dire qu'on retrouve d'un côté la domination de la monnaie, c'est-à-dire de la marchandise, hein, puisque la marchandise n'a pas de frontières. Et de l'autre côté, la domination de religions universelles, qui elles non plus n'admettent pas de frontières. Encore une fois, donc, vous voyez, la frontière est un mal nécessaire. C'est une absurdité, je suis bien d'accord, mais c'est difficile de faire sans. Voilà.
Merci beaucoup, en tout cas, pour cette conversation en divergent accord, malgré tout, hein, autour de l'éloge des frontières, donc à lire en folio, notamment. Oui, mais justement, c'est peut-être l'ancien et le plus fondamental qui revient à la surface, donc c'était très bien. Merci beaucoup Régis Debray, merci beaucoup Benjamin Stora, et évidemment cette exposition qui se tient jusqu'en mai 2016 sur les frontières, dont votre établissement, Benjamin, et que nous invitons chacun de nos auditeurs à venir parcourir. Donc on va prendre des questions et on a à peu près une demi-heure de conversation avec vous.
Frontière veut dire capitale. Alors, on va pas peut-être parler d'une capitale culturelle, parce que là, en général, il y a un recul important, etc. Je vais parler de capitale administrative, peut-être, sachant que, par exemple, on a eu l'exemple de Bonn, on a eu l'exemple de Brasilia, etc. Alors, je crois que c'est un discours, Monsieur Stora, un peu daté, enfin, qu'on arrive à situer, mais si, par exemple, avant les événements, la capitale administrative de ce territoire, qui allait effectivement de Dunkerque au Mali, avait été placée à Alger. Est-ce que vous pensez que ce serait une influence majeure, quitte à être redéplacée
Alger a été la capitale de la France libre en 1943, hein, de la France libre, hein, opposée à Vichy. Oui, oui, mais... Mais le siège du Conseil français de libération nationale, le CFLN, il faut garder le C devant parce que sinon, a été Alger. Non, ça a été transféré à Alger. C'est De Gaulle est allé à Alger. Hein.
Merci beaucoup. On va prendre d'autres questions.
Alors je vais me présenter, ça sera plus facile pour comprendre le sens de ma question. Je suis un catalan et je suis contrôleur des douanes. Donc vous comprendrez très bien ma liaison et puis mon inquiétude sur les frontières. Tel que vous l'avez défini, le danger représenté par l'abolition des frontières a été soulevé par tous les gardiens de ces frontières depuis 3 ans, signifiant et à nos représentants du gouvernement, comme les députés, comme les penseurs, comme la presse, à quel point il était important d'être vigilant et de continuer à garder nos frontières pour préserver nos citoyens comme pour préserver notre nation. Comme vous l'avez dit, ce danger qui est représenté par l'éclatement, je viens auprès de vous aujourd'hui parce que, pour moi, vous êtes des penseurs comme des guides. Comment faire pour faire marche arrière devant, quels que soient les partis politiques, une avancée inévitable vers la mondialisation, vers le basculement d'un État régalien vers un État tourné vers le commerce.
Merci beaucoup. Donc elle vous pose la question léniniste, c'est votre faute, à force de citer Lénine, vous avez une question léniniste, que faire ?
En tout cas, vous ne créerez pas l'association des douaniers sans frontières, qui serait sans doute ce qu'un certain nombre d'esprits soi-disant émancipés souhaiteraient vous voir faire. Non, mais pour revenir aux choses sérieuses, moi je trouve que vous avez raison. Cette idée qu'il n'y a pas de limite à une souveraineté. Au fond, vous savez, le vrai problème de la frontière, moi je vais vous dire ce que c'est la souveraineté. Voilà. La souveraineté. Je m'excuse, le mot sonne peut-être mal, mais pour moi, c'est la souveraineté du peuple. Bon, un peuple, c'est un peu plus qu'une population. Un peuple, c'est une collectivité qui a une histoire et qui a un lieu. Bon. D'ailleurs, pour répondre à monsieur, les capitales, ça voyage pas trop, parce que les capitales, c'est une histoire dans une géographie. Et quand on viole l'histoire, généralement, c'est l'histoire qui vous renverse, qui vous jette par-dessus bord. Donc, il faut être prudent. Le cas de Brasilia est tout à fait singulier, parce que c'est un pays tout neuf, alors que Paris a tout de même 1500 ans. Ça ne s'efface pas d'un trait de plume comme ça. Sauf en cas de force majeure, où on va installer la capitale à Londres d'abord, et à Alger ensuite. Bon. Mais oui, donc pour en revenir à cette question de la souveraineté, moi je préfère qu'il y ait un État souverain plutôt qu'un État satellite, ou un État, disons, qui reçoit ses ordres, soit d'une métropole, d'une grande puissance, d'un empire extérieur, soit qui reçoit ses ordres des marchés, comme on dit. Voilà, donc, pour moi, douanier est un métier estimable. Je voyais tout à l'heure dans un film un peu moqueur, un peu drôle sur les douaniers au début du XXe siècle, mais encore une fois, j'ai l'impression que la douane c'est embêtant, mais l'absence de douane c'est encore plus emmerdant. Voilà ce que je pense. Voilà.
Merci beaucoup.
Je suis forcé de rester dans cette sorte de entre Caribe et Scylla, mais de deux mots, je préfère le moindre. Et il me semble que la frontière qui délimite une souveraineté, c'est tout de même quelque chose qui permet de respirer.
Vous répondez aux questions léninistes, Benjamin ?
Non, mais simplement, je réponds. Enfin, je connais mal le métier, hein, évidemment, de Rime. On en a discuté tout à l'heure pendant la visite de l'exposition. Le contrôle, quand même, exercé par les douaniers, faut me dire si je me trompe, n'a vraiment jamais cessé non plus. C'est-à-dire que ce métier n'a pas disparu complètement. C'est tout le paradoxe, toute la contradiction entre l'affichage, la déclaration, etc. Et puis ce qui se passait sur le terrain, dans les faits, puisque les douaniers ont joué un très grand rôle, en particulier dans le contrôle, la circulation de la drogue, des armes, etc. C'est sur le territoire français, je parle, sur le territoire métropolitain. Donc il y a quand même une espèce de contradiction, une complexité, hein, sur ce problème, disons, de l'abandon de souveraineté et en même temps de la persistance et du maintien d'activités sur le territoire français, qui démontrent d'ailleurs précisément ce problème de la nécessité de frontières, parce que tous ces trafics n'ont pas cessé, ils ont continué à exister, et naturellement, les contrôles n'ont jamais cessé aussi. Donc, ou alors je me trompe, hein, mais c'est ce qu'on m'a expliqué, moi, que le métier de douanier n'avait pas disparu complètement.
Merci beaucoup. D'autres questions, donc, monsieur ?
Vous avez dit ma patrie, c'est la langue. En fait, pour faire le lien avec le retour du tribalisme ou du régionalisme, comme en Catalogne ou en Espagne, j'aimerais vous dire, est-ce que vous pensez que la frontière de demain serait basée sur le facteur linguistique ?
Merci beaucoup. Donc on va rassembler, j'ai l'impression, cette question avec deux autres. Je me fie aux indications d'Alexis Corbière, là, qui me fait des grands signes. Voilà.
Bonjour, merci pour vos interventions. Donc je parle, c'est d'autant plus interpellant pour moi qui suis assez jeune, qui suis née après, après tous les événements que vous avez évoqués. Donc c'était d'autant plus intéressant. Alors vous avez parlé qu'en situation d'urgence, c'était les structures les plus anciennes, les plus solides, qui revenaient, et que vous avez aussi mentionné que quand l'État descend, les mafias, les clergés remontent. Donc ce qui me semble tout à fait véridique, mais je me pose aussi la question dans quelle mesure les structures les plus anciennes, les plus solides, bah, par exemple et surtout l'État-nation, laissent la place à d'autres alternatives, d'autres expériences, d'autres mouvements plus jeunes, plus radicaux. Dans quelle mesure, en situation d'urgence, ces mouvements-là ont une liberté d'apporter leurs réponses aussi. Merci.
Merci beaucoup. Il y a peut-être encore une autre question, là, c'est ça, monsieur.
Bonsoir. Ma question est une question de vocabulaire. Pourquoi, quand on parle de migration, on ne parle pas de migrationnel, c'est-à-dire d'institution, un peu à la Spinoza? Pourquoi on ne parle pas de migrationnique quand il s'agit de conflits? Et pourquoi on ne parle pas de migragenèse quand on parle d'évolution, c'est-à-dire de, on apprend la langue, on apprend à manger. Je suis de l'Est, donc c'est de la potée lorraine, je crois, chez moi. Enfin, ça n'existe pas tellement chez Picard. Mais je crois l'horreur quand, pour moi, je termine de vivre, quand la migration, on compare les gens qui émigrent. Je me suis déplacé, je suis arrivé dans la ville de Paris où il y avait, à côté, où il y avait beaucoup, beaucoup de gens. Je n'étais pas isolé. Mais je digresse toujours. Mais c'est pour moi une horreur quand j'entends parler de la migration et qu'on on parle comme des animaux. Le flux migratoire. Tous les politiques, tous les journaux, personne ne veut accepter quoi. On identifie les émigrés à des animaux et pas à des hommes, c'est-à-dire un vocabulaire migrationniste,
migragenèse. Merci beaucoup, monsieur. On va vous répondre, bien sûr. Et je crois qu'il y a une quatrième et dernière question.
Nous sommes dans le musée de l'histoire de l'immigration. J'aurais posé une question à ce sujet. Que pensez-vous des frontières européennes concernant l'immigration et Schengen aujourd'hui?
Merci. Merci beaucoup. Régis Debray.
Écoutez, je m'efforcerai de répondre aux deux premières. Il y en a eu quatre, donc soyons égalitaires. Bon, alors, votre question sur la langue, monsieur, est très importante et très embarrassante. La communauté de langue, c'était une des thèses de l'austro-marxisme, et c'est fondamental dans le sentiment national. Mais ce n'est pas le seul paramètre. C'est un paramètre dont on ne peut pas faire abstraction, mais qui ne suffit pas néanmoins à créer une mémoire commune et à créer, je dirais, ce legs de souvenirs partagés auquel Michelet pense quand il parle d'une nation, parce que il y a quelque chose d'autre, c'est l'autodétermination tout de même des peuples. Quand je pense à l'Alsace, par exemple, c'était la thèse des Allemands. Les Alsaciens parlent un dialecte germanique, donc ils sont allemands. Non. Ce que les Français ont répondu, Renan entre autres, c'est qu'il faut d'abord les consulter. Autrement dit, il y a dans la langue un côté de fatalité héréditaire, un côté quasiment, j'allais dire animal, mais en tout cas un côté inné qui n'est pas compatible avec la libre disposition de soi à partir de critères volontaires et rationnels. Mais cela dit, il ne suffit pas d'avoir une même langue pour composer une même nation, mais quand une nation n'a pas du tout la même langue, je pense à l'Autriche-Hongrie, à l'Empire austro-hongrois, qui a éclaté par l'absence de langue commune, puisque comme vous savez, dans l'armée austro-hongroise, en 1914, les officiers n'arrivaient plus à communiquer à leurs soldats. Il peut y avoir des, comme la Suisse, des États qui ont trois langues officielles, et la Suisse est une nation, Il peut y avoir le Canada, des États bilingues, bilinguistiques. Et la question de la langue est très importante. Disons que ce qui me gêne dans l'Europe, c'est que on cite toujours cette phrase de Jean Monnet, si j'avais su, j'aurais commencé par la culture. Alors c'est très sympathique, tous les intellos sont tous d'accord, mais quand on dit c'est quoi la culture, c'est la langue d'abord. Hein? Alors, il aurait fallu commencer par quelle langue? Et comme on n'a pas pu répondre à cette question, on commence par l'anglais. C'est-à-dire on commence par la langue qui n'est pas une langue singulière, qui est simplement la langue de communication de la planète sous hégémonie américaine. Donc je pense que la subordination de l'Union européenne aux conceptions à la fois politiques et économiques américaines a commencé par l'emprunt et aujourd'hui le quasi-monopole de l'anglais dans les délibérations européennes. Donc cette question de la langue, elle est à la fois, elle est très sous-estimée, notamment par les gens de gauche, qui n'ont jamais pris ça très au sérieux. Je me souviens, par exemple, pour faire que les journaux et les gouvernements prennent la francophonie au sérieux, il faut se lever de tôt matin, parce que ça les emmerde. Et là, je pense qu'il y a une sous-estimation très forte. Alors, on pourrait parler beaucoup de cette question de la langue, mais je m'arrête là. Alors, je crois que une deuxième question posait la question de qu'est-ce qu'il y a avant. Ben écoutez, qu'est-ce qu'il y a de plus, les couches les plus, disons, les plus proches du cerveau reptilien, les plus proches du rhinocéphale, c'est quoi? Ben c'est la famille, la consanguinité, puis c'est le clan, puis c'est souvent paroisse ou la confrérie de caractère religieux, et tout ça c'est avant la citoyenneté, hein. C'est avant Internet, parce que on peut mettre le monde en réseau, mais est-ce qu'on peut habiter le réseau comme un monde? Ça, je ne sais pas, c'est la vraie question. En tout cas, donc, qu'est-ce qui remonte à mon sens le plus? Mais on le voit aujourd'hui dans tous les coins du monde, finalement, c'est la remontée du primaire et je dirais l'éclatement de toutes les constructions secondaires. Et ça, ça fait peur. Hein, parce qu'effectivement, quand on ne peut plus s'identifier comme Syrien ou comme Irakien, parce qu'il n'y a plus d'État et que l'État est envahi, il a été détruit par les Occidentaux, qu'est-ce qui reste? Ben, on est chiite ou on est sunnite, hein, ou on est alaouite, ou on est chrétien, enfin, hein, druze, et on peut continuer ainsi. Donc c'est l'éclatement, et je pense que c'est une régression. Donc c'est une raison de plus pour moi pour continuer, disons, à lutter, ou en tout cas à être conscient, à être vigilant sur la chose politique. Parce que quand la chose politique s'en va, ce qui revient, c'est assez moche. Ce qui revient, c'est assez, assez viscéral et assez dangereux, assez éruptif, passionnel, irrationnel. Bon, c'est la perte du lieu de la rationalité, moi, qui me fait le plus peur aujourd'hui. Et malheureusement, ce lieu, qui est le lieu politique par excellence, le lieu du bien commun, le lieu de l'intérêt général, il a été détruit et par le mercantilisme et par les impérialismes. C'est-à-dire qu'il a été détruit par le tout marchand. Et là, il y a un enjeu sérieux, quoi. Voilà. Un enjeu sérieux pour faire en sorte que l'histoire ne soit pas totalement une régression ni une involution, un retour en arrière, mais qui est encore, je dirais, qu'on puisse sauver des cadres civilisationnels qui sont fragiles, finalement. Au fond, c'est ça ce qu'on découvre. C'est que le civilisé, c'est assez fragile. Même chez nous, sans remonter à l'Allemagne de 1933 ou à la France de 1940. C'est une raison qu'on a de rester républicain, ce qui n'est pas toujours facile, et rester laïque, ce qui n'est pas non plus toujours facile, parce qu'on est toujours tous d'accord avec le mot de laïcité, mais comme disait l'autre, je ne sais plus, vers 1910, un rallié, il disait, mais vous êtes d'accord avec le mot, êtes-vous d'accord avec la chose? C'est différent.
Merci beaucoup, Régis Debray. Benjamin Stora.
Moi, je voudrais rebondir sur la dernière question, parce que c'est la plus importante, effectivement, puis essayer de répondre à cette question des nouvelles formes d'apparition, de mobilisation qui peuvent exister, qui ne se réfèrent pas exclusivement au monde ancien, quoi. De la famille, de la religion ou autre, parce que c'est aussi ça, le monde ancien. Et donc, on a aussi peut-être à réfléchir, je ne sais pas, au fait que dans ce retour de l'ancien, cette permanence, disons, qui ne veut pas passer, il y a aussi la transgression, hein, tout simplement. Hein, bon, la transgression individuelle, personnelle, le refus d'être comme tout le monde à un moment donné, ou le refus d'obéir, ou le droit à la soumission, lorsqu'un État aussi apparaît comme injuste. Donc ça aussi, ça fait partie des principes républicains. Ça aussi, c'est la République. C'est pas uniquement l'obéissance, le fait d'être tout le temps, disons, dans l'acceptation du fait accompli, etc. Je veux dire que l'ancien, du point de vue de ce qu'est la France, c'est le refus. Et le refus, il a été nécessaire aussi, je veux dire, dans des moments historiques. Et dans ce refus peuvent exister effectivement des mobilisations citoyennes. Moi, ce qui me gêne un petit peu dans les discussions qu'on a beaucoup en ce moment en France, c'est dans ce retour de l'ancien, de la nation, de la patrie ou autre, c'est cette dimension d'absence de l'écart, de la différence au sens du refus, c'est-à-dire de la soumission, de ceux qui n'acceptent pas l'ordre établi, l'ordre étatique établi voulu. C'est pas parce qu'on est pour la nation qu'on doit accepter l'ordre étatique établi aujourd'hui et qui est inégalitaire et injuste. Et c'est cette question, à mon avis, qui continue de m'habiter, moi. Donc je sais pas ce qu'il en est exactement pour Régis, mais en tout cas, moi, ça reste quelque chose de très fort. C'est-à-dire de ne pas, disons, accepter dans le conformisme ambiant sur la rétractation nationale aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler cette sorte de retour aux valeurs classiques ou autre. Non, je crois qu'il y a dans l'histoire de France, dans l'histoire française, dans l'histoire européenne aussi, ou même dans l'histoire mondiale, une façon d'être dans un rapport au monde qui est la non-acceptation des choses, même si on se retrouve très seul, même si on apparaît comme très seul, hein, à travers les chants, à travers les parcours, à travers les récits, à travers les discours. On peut aussi être dans cette stratégie-là. Donc, c'est pas pour moi incompatible. Hein, je veux dire, il faut réfléchir aussi à ça. C'est une incitation à ça, en fait, à cette réflexion-là qui doit exister et qui est portée par une grande partie de la jeunesse. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, elle est dans cette rage politique contre les institutions, contre le système étatique, contre les élites politiques et culturelles. Il y a une vraie rage qui habite la jeunesse française aujourd'hui. Moi, je le sais, j'ai été enseignant jusqu'à encore il y a 3 ans. Donc j'ai enseigné à Saint-Denis, j'ai enseigné à Villetaneuse, j'ai enseigné au département d'arabe à l'INALCO. Donc je voyais très bien les gens qui étaient en face de moi, qui étaient en première année de fac, ou en troisième année, ou en deuxième année, cette espèce de volonté absolue de ne pas accepter les choses telles qu'elles sont, dans l'inégalité, dans l'injustice, dans la corruption des élites, que tout le monde connaît. Parce que c'est aussi ça, hein, la circulation de l'information. Et on a une véritable distance féroce, critique, rageuse de ce qui se, disons, de ce qui se passe en ce moment dans la société, qui a très bien été expliqué. Moi, je partage ce point de vue. On peut en discuter, mais je partage ce point de vue d'Olivier Roy. Hein, je pense qu'il dit des choses intéressantes là-dessus, sur la question de, disons, du sentiment d'injustice et d'inégalité qui traverse, disons, la société d'aujourd'hui, notamment dans la jeunesse d'aujourd'hui. Donc, je comprends très très bien, hein, votre question, parce que notamment par rapport aux migrants, puisque si on est à la Cité de l'immigration, on m'a posé la question sur les migrants vus comme des animaux, ou bien sur les migrants et la frontière. On a fait ici, en septembre, une journée entière de solidarité avec les migrants aujourd'hui qui se noient en mer, qui ont des difficultés à franchir les frontières et à trouver un abri derrière les frontières. Donc je ne suis pas du tout opposé à cette question-là. Et ce qui m'avait surpris, cette mobilisation, on l'a faite en même pas 24 heures. C'est-à-dire qu'on a annoncé la chose et on a 3000 personnes qui sont venues en 24 heures ici. hein, dans l'espace forum. Et ce qui m'avait beaucoup surpris, c'est la présence des jeunes. Il y avait énormément de jeunes dans cette journée de mobilisation, beaucoup de jeunes artistes, des graffeurs, etc. D'ailleurs, on expose là-haut une partie de ce qu'ils ont fabriqué. Et j'ai été très surpris par ça, parce que dans la mesure où je fais aussi beaucoup de débats, comme ça, il y a beaucoup de gens très cultivés d'un certain âge qui viennent débattre, mais là, c'était pas le cas. Je le dis carrément, enfin, c'était vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que dans cette journée-là, il y avait énormément de jeunes, des gens entre 20 et 35 ans pour aller vite, et qui voulaient absolument exprimer leur solidarité avec le monde des migrants, avec ce qui se passait, par souci d'humanité, de justice, d'égalité, et parce qu'ils savaient, ils sentaient, ils voyaient cette extraordinaire inégalité entre le Nord et le Sud, le poids écrasant, disons, de la responsabilité aussi de l'Europe et de l'Occident au sens large par rapport à ce qui se passe au Sud, donc de ces migrations-là, et donc de toutes ces questions très politiques. Bon. Et donc, comment dire, le retour, disons, de l'ancien signifie pas forcément la question de l'immobilisme en politique, ou l'acceptation des choses qui existent.
Et ne doit pas signifier non plus l'extinction de la pensée critique. Hein. Vous dites que, au fond, il faut continuer comme Walter Benjamin. Mais là, j'essaye de prendre Régis Debray par les sentiments. Il faut continuer à nager à contre-courant.
Je ne suis pas du tout un partisan de la pensée qui consiste à dire, parce qu'il y a précisément ce retour à des valeurs, à des principes, plutôt que des valeurs, des principes, je ne suis pas du tout partisan pour dire « Ah, c'était mieux avant. Hein, on a très très bien vécu, donc essayons d'y retourner. » Pas du tout. C'était pas mieux avant, c'est pas vrai. Mais il y a toute une série de conquêtes encore à avoir. Il y a aussi toute une série de choses à conquérir. Il y a des espaces de liberté. Il y a toute une dimension critique à avoir. Et il ne faut pas abdiquer là-dessus.
La bêtise, c'est de conclure, oui. Mais
je ne me permettrai pas de conclure. D'abord, la synthèse est toujours gouvernementale. Et moi, je ne suis pas du gouvernement. Et puis, je voudrais juste poser une question, mais pour une réflexion commune, Benjamin et toi, Alexis. Je veux dire qu'il y a deux choses qui menacent le monde, c'est l'immobile d'un côté et le volatile de l'autre. Moi, je suis bien d'accord avec toi qu'il faut prendre en compte les résistances, les refus. Mais ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est le caractère éruptif, émotionnel, momentané et donc fragile. J'étais frappé par exemple que après la formidable journée qui a suivi Charlie Hebdo et l'hypercacher, ça a été un grand moment où on est passé un peu comme aujourd'hui de la position couchée à la position debout. D'accord. Mais pour combien de temps ? Cette manifestation très belle a-t-elle donné lieu à une nouvelle forme d'organisation ? A-t-elle donné lieu à des réseaux, à des systèmes, je dirais, organisés, c'est-à-dire capables de franchir le moment émotif, si tu veux. C'est ça ce qui m'inquiète. J'ai peur, si tu veux, que si cette très saine et très belle capacité de dire non ne se relie pas à quelque chose de plus profond, elles finissent par être télévisuelles, tu vois, c'est-à-dire elles finissent par être absolument fortes dans l'instant, mais une nouvelle en efface une autre, une émotion en efface une autre. Et c'est ça un peu ce que je crains, si tu veux, à la limite cette instabilité et cette difficulté à s'installer dans le temps et cette difficulté à s'installer dans la durée de ces nouvelles structures. Tu es d'accord que c'est une question, hein ?
On va être sans arrêt dans le monde de l'instantané, de l'émotion et donc de l'immédiateté. C'est vrai qu'on est victime aussi beaucoup de la circulation et de l'émotion par les chaînes d'info en permanence. Disons, ça, c'est un truc. Moi, j'ai refusé d'y aller depuis le 13 novembre. Hein. Ça, je ne suis pas allé parce qu'on ne peut pas faire des analyses tout le temps, je veux dire, écrire des tribunes sur tout et n'importe quoi, etc. Et absolument, voilà. Et de manière immédiate, il faut quand même une certaine distance. et puis surmonter aussi, bien sûr, le moment d'émotion. C'est-à-dire qu'il faut essayer de mettre l'émotion à distance pour pouvoir analyser tout ça. Donc moi, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a des poussées quand même dans la jeunesse d'aujourd'hui. Il y a des interstices, des moments de résistance, des refus qui doivent être pris en compte aujourd'hui et qui ne sont pas du tout des volontés de retour en arrière ou de reflux. Mais c'est au contraire une volonté de marcher, d'aller de l'avant. Et ça, c'est très, très fort dans la société aujourd'hui. Malheureusement, c'est vrai qu'il n'y a pas de traduction politique à ça. Ça, je suis d'accord. Et les partis politiques, notamment à gauche, ne sont pas en capacité, sur le plan théorique, tout simplement, et idéologique, à répondre à ces poussées, à ces volontés, à ces moments hein, qui existent dans la jeunesse d'aujourd'hui. Et c'est un des grands drames d'aujourd'hui, c'est évident, et qu'on voit dans l'abstention, aux élections, etc. Enfin bref, on ne va pas reprendre tout ça. Je suis d'accord, bien sûr.
Merci en tout cas beaucoup à tous les deux. Peut-être votre discussion si passionnante ce soir aura-t-elle quand même contribué justement à construire ces alternatives si nécessaires et qui aujourd'hui font défaut. Merci à tous pour vos questions et je vous conseille à titre personnel de lire ou relire L'éloge des frontières, mais aussi bien sûr Madame H, qui vient de paraître aux éditions Gallimard, que vous allez d'ailleurs dans un instant dédicacer, ainsi que Les clés retrouvées, votre dernier livre sur une enfance juive en Algérie, très beau livre aux éditions Stock, que vous allez je crois aussi dédicacer. Merci à tous, merci aux équipes de la Cité de l'immigration et en particulier à Alexis Corbière, ainsi qu'à notre partenaire, le Bondi Blog.